J'aimerais commencer ce matin en posant une question. Lorsque vous regardez autour de vous, lorsque vous voyez ce monde, lorsque vous voyez tout ce qui va de travers, tout le mal, toute la méchanceté, les attentats, les attaques, tout ce qui ne va pas dans ce monde, êtes-vous jamais découragé ? Je peux dire que parfois, moi, je le suis. Parfois, j'éteins les infos. Parfois, je m'isole un peu de tout ce qui se passe dans le monde parce que sinon, on est très vite débordé. On se dit, mais où va ce monde ? Et en tant que chrétien, on sait que ce monde va à la destruction, mais quand même. Et est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, mais Dieu, il est où ? Quand même, tout le mal qui se passe dans le monde, est-ce que Dieu est indifférent ? Mais pourquoi est-ce que Dieu permet toutes ces choses ? Ça semble comme la folie. Vous vous posez ces questions ? Parfois, dans mon fort intérieur, ces questions surgissent. Je me dis, mais je connais la Bible, et pourtant, ce que je sais de la Bible ne semble pas coller avec ce que je vois autour de moi. Et les personnes auxquelles Pierre s'adressait dans sa deuxième épître, je suis convaincu, se posaient ces mêmes questions. La deuxième épître de Pierre, chapitre 2, Pierre leur avait déjà écrit une première lettre, et en fait, il écrit ces deux lettres dans le but d'encourager les chrétiens qui passaient par la persécution. Ça, c'est très clair dans la première épître. Et ici, dans sa deuxième épître, ces chrétiens continuaient de subir la persécution et apparemment commençaient à se poser la question, mais Dieu nous a-t-il oubliés ? Dieu est-il devenu impuissant pour nous délivrer ? Dieu, est-ce qu'il va réellement intervenir ? Et même au chapitre 3, Pierre va parler de ceux qui remettent en question les promesses de Dieu, qui disent « Ah, Dieu a promis, mais il tarde dans l'accomplissement de ses promesses. Ah, il a dit cela, mais en réalité, ce jugement ou cette délivrance n'arrivera pas. » Et permettez-moi de lire les 10 premiers versets de cet épître, de ce deuxième chapitre de 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 2, les 10 premiers versets, et vous allez comprendre les circonstances dans lesquelles ces chrétiens se trouvaient. Déjà au verset 1, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un espoir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons pour ta parole et pour ces promesses, ces vérités que tu nous donnes, que tu nous éclaires ce matin. Pour comprendre ta parole, qu'elle agit en nous, elle est puissante. Et Seigneur, que tu continues de nous transformer par cette parole puissante pour que nous soyons plus conformes à Jésus-Christ et que tu reçois toute la gloire pour cela. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, vous voyez dans ces quelques versets que Pierre est confronté avec des personnes qui, effectivement, étaient découragées, se posaient des questions. Et à partir de verset 4, on comprend que Pierre va dire « Et si ?» Si Dieu a fait ceci, si Dieu a fait cela, et il prend des exemples dans l'histoire, quelques exemples que nous allons voir, il dit, si Dieu a fait cela, à plus forte raison, bien sûr, Dieu pourra faire ceci. Et c'est parce que ces personnes auxquelles Pierre écrivait au 1er siècle, qui subissaient la persécution, ils avaient une vie très dure, ils manquaient de beaucoup de choses, ils avaient mal, ils étaient frustrés. Et Pierre leur écrit pour les encourager, avec deux vérités principales. La première, c'est que Dieu prend soin de ses enfants. Et bien sûr, on va s'étendre un peu plus là-dessus, mais vous le voyez au verset 9, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » Pierre veut encourager ses chrétiens avec cette vérité, malgré toutes les circonstances, malgré toute la persécution, malgré toutes les choses incompréhensibles qui arrivaient à ces chrétiens, Pierre ici leur assure, Dieu sait nous délivrer. Mais ce n'est pas simplement ça. Dieu sait aussi punir les injustes. Et ça, nous voyons aussi dans la suite du verset 9. Non seulement il sait délivrer de l'épreuve des hommes pieux, mais aussi, il sait réserver les justes pour être punis au jour du jugement. Ça, c'est la vérité centrale que Pierre veut enseigner à ses chrétiens, qui apparemment avaient besoin de rappel. Ils avaient déjà entendu la plupart de ces vérités dans sa première épître. Ces chrétiens avaient déjà une certaine connaissance, mais ils avaient besoin de rappel. Et pour l'avoir expérimenté moi-même, je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ce rappel parce que le monde ne va pas en s'améliorant. Nous n'allons pas vers l'utopie, non, on va de mal en pis. Tout semble de travers. Et dans ces jours où Satan voudrait nous faire douter de ce que Dieu a dit, Satan voudrait nous faire douter de la bonté de Dieu, de sa puissance, de sa fidélité, il faut revenir à des versets comme ceci pour être encouragé, pour être stimulé, peut-être pour être repris. Et bien sûr, nous trouver devant Dieu. Alors, dans les trois premiers versets de ce chapitre, Pierre va expliquer quelque chose qu'en fait Jésus avait dit. Pierre avait entendu cela, il le transmet à ses chrétiens, pas pour la première fois, il en avait déjà parlé dans sa première lettre. Mais Pierre explique que même parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, il y aura des personnes avec des intentions malveillantes, il y aura des personnes avec des intentions égoïstes, qui vont essayer de nous détourner. Et à cause de cela, Pierre appelle à la vigilance. Et Pierre savait très bien de quoi il parlait en ce qui concerne la vigilance. Parce que souvenons-nous, Pierre était un de ses disciples qui était avec Jésus dans le jardin de Gethsémané, où Jésus, au moment le plus critique de sa vie, il demande à ses disciples deux choses, veiller et prier. Et Jésus s'éloigne pendant quelques instants, il revient et il trouve les disciples endormis. Et on se dit, et Jésus même le dit, mais vous n'avez pas pu veiller une heure. Je vous ai demandé deux choses, veiller et prier. Alors, avant de jeter la pierre aux disciples, à leur place, on n'aurait pas fait différemment. Et nous aussi, nous serions endormis. Mais Pierre savait très bien qu'être vigilant, veiller, être sur ses gardes, était quelque chose de très important. Parce que les adversaires sont réels. Satan cherche à nous déstabiliser. Satan va envoyer des personnes pour nous détourner de la vérité. Et lorsque nous lisons ces trois premiers versets, c'est comme si Pierre parlait de notre époque. N'est-ce pas? Lorsque je lis ces versets, j'ai déjà dans mon esprit des personnes comme des télé-évangélistes, des personnes qui vont à la télé, entre guillemets des pasteurs, des hommes de Dieu, parfois même des femmes de Dieu, qui vont dire certaines choses. Je pense notamment à un pasteur aux États-Unis, Joel Osteen, vous avez peut-être entendu parler de lui. Et pour lui, il ne faut prêcher que l'amour de Dieu. Il ne prêche pas sur le péché, parce qu'il dit que ça dérange les gens. Et lorsqu'on entend cela, on se dit, mais je ne vois pas ça dans la Bible. Non, on prêche l'amour de Dieu, mais aussi on prêche la repentance. Que les gens sont pécheurs, et ils doivent se repentir de cela. Mais pour ce pseudo-pasteur, non. On prêche l'amour. Et bien sûr, son église, c'est une église de plusieurs milliers de personnes. Et ce n'est pas étonnant parce que les gens aiment entendre cela. Mais c'est un faux docteur. C'est un faux prédicateur de l'évangile. Et bien sûr, souvent est lié à cela. L'argent, verset 3, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Dieu ne reste pas indifférent lorsque des personnes utilisent mal sa parole. Pierre explique ici que ceux qui enseignent un autre évangile, ceux qui cherchent délibérément à éloigner des gens de Dieu, de sa parole, détourner de la voie juste de la voix de la parole, Pierre dit, Dieu ne reste pas insensible à cela. Et ils seront jugés à un moment donné. Et c'est un grand avertissement pour nous, parce que si jamais nous nous écartons de la parole, si jamais nous enseignons des choses qui ne sont pas conformes à la parole, et moi le premier, je suis concerné par cela, Dieu ne reste pas indifférent à cela non plus. Et il faut bien s'assurer que ce que nous annonçons est réellement la parole de Dieu. Il ne faut pas se laisser séduire par des personnes qui voudraient diviser, comme Pierre dit dans le verset 1, ni par ceux qui semblent bien parler, mais qui en réalité annoncent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il faut être vigilant. Il faut être éveillé, pas simplement physiquement, mais éveillé spirituellement. Et ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pouvons faire cela. Et ces hommes pieux, dont on parle dans les versets 9, sont ceux qui sont vigilants. Sont ceux qui, par l'esprit, ont la clarté spirituelle pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. On examine toute chose, comme Paul dit aux Thessaloniciens, pour retenir ce qui est bien. Comme Jean va dire, on va éprouver les esprits. On aura du discernement. On sera vigilant. Et c'est ce que Dieu demande de chacun d'entre nous, pas simplement de moi en tant que pasteur, mais chaque enfant de Dieu est appelé à cela. Parce que sinon, si on ne reste pas vigilant, effectivement, on se laissera égarer par toutes sortes d'enseignements. On sera comme cette personne dans Jacques chapitre 1, qui est ballottée, qui va d'un côté, qui va de l'autre, qui n'est pas stable. Il faut rester ancré dans ce que Dieu a dit. Et pour cela, il faut être vigilant. Et c'est là où nous arrivons au verset 4. Nous allons passer un peu de temps ici pour examiner ces versets 4 jusqu'au verset 8, parce que Pierre va se servir de l'histoire pour appuyer son argument que Dieu, lui, il est fidèle. Que ce que Dieu dit, il le fera. Alors, déjà verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Alors ici, Pierre parle de quelque chose dont ces Juifs à son époque avaient connaissance. Alors pour situer ceci, apparemment, lorsqu'on regarde le contexte ici, c'est quelque chose qui a eu lieu entre la création, donc Adam et Ève, au début, Genèse chapitre 1, et Noé. Parce que lorsqu'on prend les différents événements auxquels ici Pierre fait référence, il semble comme dans un ordre chronologique. Il y a Noé, puis il y a la destruction de Sodome et Gomorre, il y a Lot. Et ça, c'est dans un ordre chronologique. Donc, il est logique de penser, de croire que ce verset 4 intervient avant ces choses. Alors, où exactement dans l'histoire ? Pierre ne le précise pas, bien sûr. Il y a pas mal de théories là-dessus. Ici, certains voient la chute de Satan et de ses anges. Possible. Peut-être c'est un autre événement. Le moment précis de ce qui se passe ici n'est pas le plus important, ce n'est pas ce que Pierre veut souligner. Il veut souligner que Dieu n'a même pas épargné les anges. Ces êtres créés par lui pour être à son service, qui étaient créés purs, saints, sans péché, il y avait des anges qui, eux, ont péché, qui se sont écartés de Dieu. Et Dieu n'avait pas de problème à juger ce péché. Dieu n'a pas dit parce que ce sont ces anges, parce que j'en ai besoin, parce que pour telle ou telle raison, je vais épargner ces anges. Non. Pierre dit si Dieu n'a pas épargné les anges, mais au contraire, qu'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et il les réserve pour le jugement. Dieu a fait cela, c'est une réalité. Pierre dit, s'il a fait ça aux anges, ne croyez-vous pas que Dieu va être fidèle à sa parole? Mais au verset 5, il prend un exemple bien connu dans l'histoire des Juifs et dans l'histoire du monde. De nouveau, cette expression « si » n'a pas épargné, et ça on va voir à plusieurs reprises ici. « Si il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Alors, Genèse chapitre 6, « Dieu voit la méchanceté de la terre, et il dit à cause de cette méchanceté, parce que leurs pensées se tournent toujours vers le mal, vers la méchanceté, je vais détruire le monde. » Et parmi toute la population qui était sur la terre à ce moment-là, Dieu sauve 8 personnes. C'est quand même phénoménal. Il y a eu un certain temps entre la création et le déluge, plusieurs générations, il y a eu une multitude de gens, on ne sait pas exactement combien de personnes étaient sur la terre, mais c'était quand même une population assez importante. Et ici, on voit, Dieu n'a pas épargné. Dieu ne s'est pas dit, je vais leur encore donner une chance, une occasion, je vais encore attendre. Non, il y avait Noé qui, pendant plus de 100 ans, va prêcher la repentance. Mais Dieu va sauver 8 personnes. Noé, son épouse, ses 3 fils, leur épouse. Contrairement à ce grand film Noé qui est sorti il y a quelques années, qui n'a rien à voir avec le récit biblique. Alors, les deux choses du récit biblique dans ce film, il y avait un homme appelé Noé, il y avait une arche, c'est tout. Hein? Donc, c'est pas la peine de voir le film. Mais Dieu sauve Noé et 8 personnes. Il n'a pas épargné l'ancien monde. Et c'est Dieu ayant créé toute la terre, ayant créé chacun des êtres humains sur la terre à ce moment-là, ne croyez-vous pas que Dieu les aimait, que Dieu aurait voulu qu'ils se retournent vers lui, qu'ils se repentent? Mais ici, Pierre dit, mais Dieu n'a pas épargner l'ancien monde. Alors, il a dit qu'il allait détruire le monde, il l'a fait. Alors, ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui, Dieu agira s'il a fait cela? Alors, si on doute du déluge, oui, on doutera de la fidélité de Dieu aujourd'hui. Si on doute que Dieu n'a pas épargné les anges, oui, on va douter de la fidélité de Dieu aujourd'hui. Mais au verset 6, Pierre va encore plus loin. Il va relever quelque chose de très fort, très marquant dans la Genèse. Verset 6, « S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant en exemple aux impies à venir. » Alors, on voit les villes de Sodome et Gomorre totalement dans le péché, notamment lorsqu'on lit le récit dans Genèse, notamment dans l'homosexualité. C'est pour cela que Dieu les a condamnés, entre autres. Et justement, Dieu ne les a pas épargnés, malgré la prière d'Abraham. Vous vous souvenez de cette histoire? Abraham, lui, il s'entretient avec Dieu et il commence en disant « Mais tu es le juge de toute la terre, tu fais justice, feras-tu périr le juste avec le méchant s'il y a 50 justes ?» Et Dieu dit « Bon, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas la ville. » Et Abraham dit « Mais s'il y a 45 ?» Et Dieu dit « Bon, pour 45, je ne détruirai pas. Pour 40 ?» Non, pour 40. 30, 20, 10. Et Dieu dit « Si il s'y trouve 10 justes, je ne détruirai pas les villes. » Ce qui fait que ces villes ont été détruites. Il n'y avait même pas 10 justes. Apparemment, il n'y avait qu'un seul. C'était Lot. Et d'ailleurs, on va parler de lui un peu plus en détail dans quelques instants. Mais Sodome et Gomorre, Dieu a déclaré le jugement contre ces villes, pour leurs péchés. Comme j'ai dit, notamment l'homosexualité, et entre parenthèses, cela montre l'attitude de Dieu concernant ce péché. On n'est pas né comme cela, non. On choisit ce mode de vie, on peut en être délivré, bien sûr, mais ce n'est pas une maladie comme quelques-uns voudraient nous faire croire, non. L'homosexualité, c'est renier comment Dieu nous a fait. Bon, je ferme la parenthèse. Ces villes de Sodome et Gomorre, Dieu a promis de les détruire et il les a effectivement détruits. Genèse chapitre 18-19. Et Paul, ici Pierre dit, Dieu a promis. Il les a condamnés et effectivement, cette condamnation, c'est réalisé. Alors, que ce soit pour l'ancien monde, que ce soit pour Sodome et Gomorre, si Dieu l'a fait là, ne croyez-vous pas que Dieu va juger le péché aujourd'hui? Et maintenant, en se tournant de l'aspect négatif, parce que les versets 4 jusqu'au verset 6, c'est assez négatif quand même, on parle de destruction, on parle de jugement. Mais là, en verset 7, c'est quand même très, très intéressant, ça, c'est surprenant, bouleversant même. « Et s'il a délivré Lot, le juste. » Et là, on lit ça, et je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment du mal à accepter que Lot soit appelé le juste. Parce que lorsqu'on compare avec le récit en Genèse chapitre 18 et 19, on se dit, mais il n'y a rien de juste là-dedans. Déjà, bon, c'est le neveu d'Abraham. Hein? Et à un moment donné, les deux troupeaux, les biens des deux hommes, deviennent tellement importants qu'ils ne peuvent pas rester ensemble. Ils doivent se quitter. Et Abraham dit à Lot, même si tu es plus jeune que moi, même si moi j'ai l'autorité de choisir la part que je veux, je vais te laisser le choix. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Et Lot, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde et il prend les meilleures terres pour lui. Et il laisse ce qui pour lui est un désert à son oncle Abraham. Déjà, on voit la perspective de Lot. assez égocentriste, il est un peu obsédé par les biens. Alors, Lot s'installe à Sodome et Gomorre après un certain temps. Et lorsque les deux anges qui arrivent pour juger la ville, lorsqu'ils arrivent chez Lot, vous connaissez l'histoire, cette nuit, des hommes de la ville entourent la maison de Lot, veulent que ces hommes sortent. Et qu'est-ce que Lot fait? Il veut protéger ces hommes qui sont venus sous sa toit. Alors, il leur propose ses filles à ces hommes pour qu'ils les traitent comme ils veulent. Vous imaginez, vous qui êtes parents, vous imaginez livrer vos enfants pour être traités par des hommes méchants? Non mais, on ne comprend pas du tout et on se dit, mais Lot, il est appelé juste ici. Mais quand même. Mais ce n'est pas tout. Parce que Lot, par la suite, les anges lui disent, bah, prends tout ce que tu as, les personnes qui sont ici, et partez. Et puis Lot, il essaie de retarder cela à un tel point que les anges le prennent par la main et le tirent littéralement hors de la ville. On se dit, mais Lot, il n'a rien compris. Dieu voulait l'épargner, le passage en Genèse chapitre 19 le dit. Dieu voulait l'épargner. Alors ces deux anges le prennent littéralement par la main, le traînent hors de la ville et lui disent, bah, là, sauve-toi sur la montagne, parce que toute la plaine sera détruite. Et à ce moment-là, Lot, je me dis, il aurait dû réfléchir en lui-même et dire, « Ok, bon, je vais obéir finalement, je vais aller à la montagne. » Mais non ! Lot dit, « Mais je ne peux pas me sauver à la montagne, c'est trop loin, c'est trop dur, laissez-moi aller dans cette petite ville de Tsoar. » Donc, encore une fois, au lieu d'obéir à Dieu, Lot, il va dire, « Non, je veux faire ce que je veux. » Et ce qui est tellement bouleversant, c'est que Dieu lui dit, bon, d'accord, tu peux faire ça. Moi, à la place de Dieu, j'aurais dit, mais mets-toi sur la montagne, je t'ai dit. Non, mais cette ville, c'est pas du tout, je vais détruire cette ville aussi. Va sur la montagne. Mais il dit, non, non, tu peux aller dans cette ville. Et finalement, cette ville est épargnée, bien sûr. Tout le reste de la plaine est détruite. Et même si Lot a demandé d'aller dans cette ville, quelques versets plus loin, on voit que Lot, il a peur des gens de la ville. On ne sait pas trop pourquoi, mais il a peur des gens de la ville. Et finalement, il va se réfugier sur la montagne. Là où Dieu lui avait dit d'aller au début. Et puis, bien sûr, ses filles, cette histoire sordide dans Genèse chapitre 19, où ses filles, en fait, couchent avec lui. Parce qu'elles ont ce raisonnement, personne ne viendra vers nous, alors il faut qu'on ait une descendance pour notre père, un raisonnement totalement humain, qui écarte Dieu de tout. Et Lot est dans cette situation-là, et on se dit, mais Lot, le juste? Non mais là, Seigneur, quand même! Quand même! Et on voit, si Dieu a délivré Lot, le juste, celui qui était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Ah bon? Lot se mettait en peine pour les gens de Sodome et Gomorre? Dans Genèse, je ne vois pas du tout cela. À qui Lot pensait? Bah, à lui-même. Il était entièrement égoïste, il ne pensait pratiquement qu'à lui-même. Sauver sa propre peau. Mais il a reçu ce témoignage de Dieu que, justement, il était attristé par tout ce qu'il voyait autour de lui. Et verset 8, « Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Et moi, dans mon esprit, je me dis, mais s'il était dans cet état, ben, qu'il sorte de Sodome et Gomorre, qu'il s'éloigne de ces gens, ou au moins qu'il leur témoigne. Et si j'étais à la place de Dieu, j'aurais dit, mais Lot, tu as eu assez de chance. Non, mais je voulais t'épargner, mais tu n'as pas voulu, alors tant pis pour toi. Tu subiras le sort que tu as voulu. Mais non, Dieu va le délivrer. Et c'est le dernier exemple que Pierre va prendre. Pierre va dire, si Dieu a fait ceci, s'il n'a pas épargné les anges, s'il a jugé les anges, s'il a jugé l'ancien monde, s'il a jugé Sodome et Gomorre, Si il a délivré Lot, cet homme envers lequel on va dire ben, il n'a rien de bon, il ne mérite pas d'être sauvé, si Dieu a fait tout cela, et c'est là où on arrive au verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Si Dieu a su sauver Lot, et il a fallu beaucoup pour ça, il a fallu deux anges, il a fallu un miracle, souvenez-vous, les anges vont frapper d'aveuglement les gens qui ont entouré la maison de Lot. Il faudra la bonté de Dieu pour que ces anges le tirent, le traînent hors de la ville. Il faudra la miséricorde de Dieu pour lui accorder la ville de Tsoar, d'aller là. Il faudra énormément de la part de Dieu pour sauver Lot, pour le délivrer. Et si Dieu était capable de sauver Lot, malgré tout ce qu'il a fait, ne croyez-vous pas, et c'est le raisonnement de Pierre, qu'il est capable et qu'il veut nous délivrer, nous sauver? Et lorsque nous voyons dans ces versets 7, ces versets 8, profondément attristés de la conduite de ces hommes, sans fin dans leur dérèglement, ça peut être une description de notre société aujourd'hui. On se permet tout aujourd'hui, n'est-ce pas? On est vraiment sans fin, sans frein, je veux dire. Et aujourd'hui, même si nous sommes au milieu de ce monde mauvais, ben, nous tourmentons journellement notre âme, juste à cause de ce que nous voyons et de ce que nous entendons des œuvres criminelles qui sont autour de nous. N'est-ce pas? En tant qu'enfant de Dieu, ça devrait être notre perspective. Et si Dieu a aidé Lot, s'il l'a délivré, malgré toutes ces choses que nous voyons dans Genèse chapitre 18 et 19, ne croyons-nous pas que Dieu nous délivrera aussi? Ce même Dieu qui a agi pour Lot, n'agira-t-il pas pour nous aujourd'hui? Et parfois, on perd un peu la perspective, parce que les choses nous font mal. Il ne faut pas minimiser la réalité du mal que nous subissons. Les épreuves sont réelles. Et lorsque Pierre ici dit « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve », souvenons-nous, il parlait à des gens qui étaient persécutés. Le mardi soir, assez souvent, nous parlons de ces chrétiens persécutés encore aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui, un peu partout dans le monde, sont persécutés, sont parfois mis à mort. Et nous, chaque jour, même si nous ne sommes pas persécutés, parfois, souvent même, nous passons par des épreuves. Des épreuves de santé. Des épreuves même parfois spirituelles. Satan, c'est Pierre qui le dit, est un lion rugissant. Il rôde, il cherche qui il peut dévorer. Et cela est une réalité. Et nous sommes dans l'épreuve. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, parfois nous pouvons avoir cette réflexion. Est-ce que Dieu voit que je suis dans l'épreuve? Est-ce que Dieu me sauvera réellement? Est-ce que Dieu réellement il va me délivrer? Parce que l'épreuve dure. Parce que l'épreuve est dure, ça éprouve, ça écrase parfois, ça décourage. Et au milieu de ces épreuves, il nous faut nous souvenir des versets comme celui-ci. Dieu s'est délivré de l'épreuve. Mais là, quelqu'un me dira, oui, mais Dieu s'est délivré les hommes pieux. Peut-être je ne suis pas pieux. Ah oui, mais si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes justes devant Dieu. Cette piété ici ne dépend pas de nous. Bien sûr, il faut marcher comme Dieu veut que nous marchions. Il faut se comporter comme Dieu veut que nous nous comportions. Mais notre justice n'est pas la nôtre, c'est celle de Jésus-Christ. Et chaque enfant de Dieu est un chrétien pieux. est un homme, une femme pieux, pieuse. Alors, si nous nous appartenons au Seigneur, nous sommes dans cette catégorie de personnes pieuses. Et à ce moment-là, Dieu nous délivrera. Alors maintenant, attention, ce ne sera peut-être pas aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas demain. Mais cette délivrance viendra. Satan voudrait nous faire douter de cela. Et justement, dans le chapitre 3, Pierre va encore parler de ces personnes qui disent, le Seigneur, il tarde dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu ne le fera pas. Non. Il use de patience envers nous parce qu'il veut que tous se repentent. Il veut que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Il ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente, qu'il vive. Ces versets se trouvent dans le chapitre 3 de cet épître. Et Pierre dit, Dieu délivrera. Peut-être pas aujourd'hui, mais Dieu délivrera. Et cette espérance, pas simplement un espoir, j'espère que, il est possible que, peut-être bien que oui, mais peut-être non. Non, c'est la ferme assurance que Dieu nous délivrera, peu importe l'épreuve par laquelle nous passons. Et que Dieu ne reste pas indifférent à notre situation. Ces anges, l'ancien monde, Sodome et Gomorre, Lot, Dieu ne restait pas du tout indifférent dans chacune de ces situations. Et notre situation, aussi petite, aussi grande soit-elle, Dieu ne reste pas indifférent. Et cela doit nous encourager. Cela doit ranimer notre confiance dans le Seigneur. Ça doit nous reprendre si on a un peu baissé les bras dans ce domaine. Mais comme j'ai dit, Pierre ici veut donner deux enseignements principaux. Le premier, qu'effectivement Dieu sait délivrer ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont pieux. Mais le deuxième enseignement qu'il veut donner, cette deuxième vérité dans ce verset 9, est réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. La justice autour de nous le voyons, n'est-ce pas ? L'injustice, l'innocent qui est relâché, le coupable qui est jugé. Et nous réagissons face à l'indifférence, à l'injustice, et on se dit, mais ce n'est pas normal. L'injustice, ça devrait nous faire grincer les dents en disant, mais non, il faut la justice. Et les chrétiens doivent être pour la justice. Mais il faut savoir que Dieu s'en occupe. Parce que nous voyons tellement de fois ceux qui font le mal, on va dire, rien ne leur arrive. C'était le sentiment du psalmiste dans le psaume 73. Il dit, je regarde les méchants, ils prospèrent, ils ont tout, ils ont l'air contents, ils ont l'air heureux. Et moi, je suis Dieu et je suis à l'étroit. Moi, j'ai plein de problèmes. Et ceux qui rejettent Dieu, ceux qui cherchent leur propre intérêt, ils ont vraiment l'air d'aller bien. Et Pierre voulait combattre cette idée. Et il dit, autant Dieu sait prendre soin de ses enfants, les délivrer dans les épreuves, autant Dieu sait juger ceux qui se dressent contre lui. Et il prend ces mêmes exemples, ces anges. Dieu n'a pas hésité à condamner, à juger ce péché, à les enfermer même. Et il les réserve pour le jugement, sous-entendu le jugement final. Même toute la terre qu'il avait créée, que Dieu aimait. Genèse chapitre 6, il y a ces paroles tellement bouleversantes. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Je me dis, Dieu ! Il se repent d'avoir créé l'homme. L'homme était devenu tellement méchant que Dieu s'est dit en lui-même, il aurait mieux fallu ne pas créer l'homme. C'est fort ça. Et Dieu, malgré cette création, il va juger ce monde. Sodome et Gomorre. Il ne va pas hésiter à les juger, à les condamner. Et lorsque nous regardons autour de nous, nous avons vraiment cette impression, et parfois c'est la réalité, que les gens autour de nous qui font l'injustice, les gens qui se moquent de Dieu, les gens qui blasphèment, les gens qui ne font aucun cas de Dieu, qui appellent le mal bien et le bien mal, on a l'impression que rien ne leur arrive. On a presque l'impression que Dieu est indifférent. Et on se dit, mais Dieu, ne vas-tu pas juger ces personnes quand même? Ils se dressent contre toi. Ils persécutent ton peuple. Ils font le mal. Seigneur, ne feras-tu rien? Et à ce moment-là, si nous nous posons ces questions, si nous réagissons de la sorte, ben, nous oublions que Dieu ne reste pas indifférent, que Dieu va juger et que personne ne peut échapper à son jugement. Et le plus leur méchanceté grandira, plus leur jugement sera sévère. Justement, dans les versets qui suivent, nous n'avons pas le temps ce matin de voir cela, mais dans les versets qui suivent, nous voyons que plus cette méchanceté grandit, ben, plus le jugement de Dieu sera sévère contre ces personnes. Et Pierre explique que personne ne peut échapper à Dieu. Les hommes croient pouvoir cacher leurs péchés, croient pouvoir faire comme ils veulent, sans que Dieu n'intervienne. Mais Dieu dit, c'est autrement. Moi, je vois. Moi, je prends note. Moi, je réserve pour le jugement ces personnes. Et ce verset 9, autant Dieu sait délivrer ses enfants, exactement de la même manière et avec autant de force et avec autant de fidélité, Dieu sait réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Et ce jour de jugement, peut-être il sera aujourd'hui. Ce peut très bien qu'aujourd'hui, ceux qui agissent mal reçoivent le jugement pour cela. Mais nous voyons que c'est assez rare, n'est-ce pas? Parfois, le monde va parler de karma. Vous avez entendu parler de ça. J'ai même vu des vidéos. Quelqu'un, il fait quelque chose de méchant. Et puis, tout de suite derrière, quelque chose lui arrive. Quelque chose de mal lui arrive. Et parfois, c'est un peu rigolo. Mais le monde va parler de karma. Si on fait quelque chose de mal, ben, un jour, quelque chose de mal nous arrivera. Bon, ce n'est pas une idée biblique. Okay. Karma n'existe pas. Dieu, dans son jugement, jugera le péché. Et peut-être ce sera aujourd'hui, mais peut-être pas. Et si, à nos yeux, le jugement de l'injuste, du méchant, semble tarder, et on se dit, mais Seigneur, il faut juger cette personne. Non, mais quand même, là, ce péché, il est tellement gros, c'est tellement manifeste. Seigneur, il faut que tu interviennes. Comme si on devait apprendre quelque chose à Dieu. Il faut se souvenir que Dieu, en son temps, va juger. Et que de toutes les façons, à la fin, le dernier jugement, Apocalypse chapitre 20, tous se tiendront devant Dieu. Personne ne pourra y échapper. Ni vous, ni moi, ni qui que ce soit, pourra échapper ce jour-là. Et Dieu réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Peut-être il faudra attendre le jour du jugement à la fin pour voir le jugement de l'injuste. Mais cela arrivera. Et Pierre, lorsqu'il écrit à ses chrétiens, qui subissaient ces persécutions et qui voulaient en être délivrés, qui voulaient que leurs persécuteurs, bien sûr, soient jugés. Que Dieu intervienne, Pierre leur dit, supportez avec patience. Ce n'est pas facile, mais parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que Dieu s'est révélé à nous, Parce que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Parce qu'il est là depuis le début, et même avant le début. Et qu'il agit encore aujourd'hui, et qu'il agira jusque dans l'éternité future, que rien n'échappe à ses yeux. Et qu'il est entièrement juste, parfait, amour. Les situations par lesquelles nous passons aujourd'hui, aussi agréables ou aussi dures, désagréables soient-elles, Dieu ne reste pas indifférent. Ces choses ne surprennent pas Dieu. Et si aujourd'hui tout se passe bien, ben gloire à Dieu. Amen. Restons attachés à Dieu. Si aujourd'hui on a l'impression que tout va mal, tournons-nous continuellement vers Dieu. Ayons cette foi, cette confiance en Dieu qu'il continue d'agir. Ne soyons pas comme ceux qui disent ben, « Dieu est un peu en retard ». Peut-être Dieu a oublié. Peut-être Dieu n'interviendra pas. Peut-être Dieu est tellement occupé avec des choses beaucoup plus grandes que dans ma vie aujourd'hui, ben, ce n'est pas vraiment une priorité pour lui. Non, Pierre, ici, montre aux chrétiens que Dieu agit. Pas toujours comme nous pensons, pas toujours au moment où nous nous voulons, mais Dieu agit pour ses enfants, pour les délivrer. Même s'il faut attendre, Dieu agit pour la délivrance de ses enfants et Dieu agit pour la punition des injustes. Et ces deux vérités avec lesquelles Pierre voulait encourager, stimuler les chrétiens du premier siècle sont tout aussi valables aujourd'hui et je dirais presque sont plus valables pour nous aujourd'hui. Parce que le monde est devenu tellement mauvais, le monde est tellement de travers que les chrétiens sont en une telle minorité que nous avons besoin de ce rappel. Et lorsque dans notre cœur, nous commençons à entendre cette voix, est-ce que Dieu fera réellement ceci? Est-ce que Dieu réellement, tout de suite, il faut répondre oui. Je crois la parole de Dieu. Dieu interviendra et Dieu me donnera la grâce de supporter cette situation jusqu'à la fin. Et aussi méchant que soit le monde autour de nous, cela ne surprend pas Dieu et Dieu les jugera. Pour nous, il s'agit de rester ferme sur les promesses de Dieu, il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous, mais de ne pas nous décourager, de ne pas remettre en question, en cause, la fidélité, l'intérêt de Dieu pour nous. Non, Dieu sait nous délivrer, Dieu sait juger. Ayons cette confiance, remercions Dieu pour cela et restons attachés à lui. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ces paroles d'encouragement dans Pierre. Merci que tu agis encore aujourd'hui. Tu es ce même Dieu qui a agi dans le passé, qui agit encore aujourd'hui, qui agira jusque dans l'éternité future. Merci que tu nous soutiens personnellement, individuellement. Tu soutiens cette Église dans son ensemble. Merci que tu ne restes pas indifférent à notre situation. Aide-nous à grandir en confiance en toi. Aide-nous à nous rappeler ces choses lorsque nous devenons découragés, lorsque nous cédons aux doutes. Seigneur, reprends-nous là où c'est nécessaire. Fortifie notre foi en toi et que tu puisses recevoir toute l'honneur et toute la gloire pour cela. C'est en ton nom que nous prions. Amen.